Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Minkinbox.net, Cyclon.net et StarWars-Holonet.com.
So what I told you was true, from a certain point of view.
Everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you.
Avertissement. Ce podcast contient du contenu qui peut influencer votre expérience des futures productions de l'univers Star Wars.
I'm not afraid.
L'écoute de cette émission est laissée à votre entière discrétion.
Evacuate? In our moment of triumph?
I'm going to regret this.
Look, don't worry. Everything's going to be fine. Trust me.
If what you've told me is true, you will have gained my trust.
I wonder if your feelings on this matter are clear.
For your own good, stay out of this affair.
Now you will experience the full power of the dark side.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Wars en direct édition spoiler numéro 11. Dans cette émission, nous parlerons des dernières révélations sur le début de Star Wars Le Réveil de la Force. Vous en apprendrez encore un peu plus sur les personnages de Rey, Poe, Finn, Leia, Han, Kylo et Luke. Nous suivrons le plan de vol du Millennium Falcon et nous dirigerons vers les deux super armes de la Rébellion et de l'Empire. Pour terminer l'émission, nous vous livrerons une révélation considérable sur un des personnages principaux et piliers de l'univers Star Wars. Je suis Hervé Coral et vous êtes également en compagnie de Danny Pépin. Salut Danny.
Bonjour à tous.
Et d'Henri Leventhal. Salut Henri.
Salut.
Bon alors, comment allez-vous? C'est un peu bizarre de vous poser cette question, sachant que nous venons d'enregistrer Star Wars en direct 102. Donc on vient de passer un peu de temps déjà ensemble.
On a atteint notre troisième heure, pratiquement.
Ouais, c'est ça, notre troisième heure de live, parce qu'en fait, on enregistre cette émission également en live. Donc, salut à tous ceux qui sont restés dans le chat pour écouter donc Star Wars en direct spoiler. Donc, ceux qui sont absolument pas réfractaires à entendre ce que nous allons dire.
Mm-hmm.
Donc voilà.
Se faire spoiler.
Et se faire spoiler à oui un maximum là je pense hein, parce que là on va avoir quand même une énorme révélation, enfin une énorme rumeur qui a été lancée sur un des personnages principaux de l'univers Star Wars. On va voir ça dans peu de temps.
Si c'est vrai, ça va être majeur.
Tout à fait, si ça se confirme, ça va être quand même énorme. Voilà, donc avant de nous lancer dans le contenu de cette émission, sachez que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Star Wars en direct sur starwars.direct et que je vous invite à les télécharger en vous abonnant à notre compte iTunes et à notre flux RSS. La dernière en date étant Star Wars en direct 102, donc que nous venons d'enregistrer, juste avant. Voilà, pour terminer cette introduction, nous remercions nos partenaires, Meltinbox.net, Cyclon.net et StarWars-Holonet.com. Donc passons maintenant à la rubrique Hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Alors, pour tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, donc sachez que quand même, nous sommes dans une émission spoiler, comme le titre l'annonce. Donc, si vous ne voulez pas avoir des soucis et que vous voulez pas du tout entendre et toutes les rumeurs qui courent sur ce film-là, sur The Force Awakens, donc je vous conseille de quitter cette émission rapidement. Et puis, à nos amis qui sont sur le chat, donc si vous nous rejoignez également, sachez que nous allons parler de beaucoup de choses, de rumeurs, de spoilers. Donc, si vous voulez garder l'expérience du film en salle intacte, donc je vous conseille toujours maintenant de nous quitter. Voilà, je voudrais juste avant de lancer Henri, je voudrais déjà vous informer que toutes les news que nous allons dont nous allons parler dans cette émission-là résultent d'une synthèse de plusieurs sources. On a eu un peu de temps et c'est vrai que beaucoup d'informations sont arrivées ces derniers temps et que pour organiser à peu près cette émission, on a mis plusieurs sources dans les différentes rumeurs qui vont suivre. Voilà, c'était pour juste un petit détail pour vous en informer. Voilà, donc Henri, je vais te lancer sur l'introduction du film qui semble être enfin révélée.
Oui, effectivement, ce fameux début du film, il y a eu plusieurs versions depuis pas mal de temps. On en a déjà plusieurs fois parlé d'ailleurs durant nos émissions, mais effectivement, cette fois-ci, Making Star Wars a décidé de mettre un peu sur les points sur les i et nous révélerait ainsi cette fameuse scène d'ouverture du film. Et donc là, voilà. Donc ça va être un peu succinct. Il y a les détails un peu des endroits où ça se déroule. Donc ça ressemble un peu aux extraits. Comme si c'était tiré du script de tournage, donc
je voilà. Je me demande même si ils ont le script à ce point-ci, Making Star Wars ou non, ou si on tout simplement écrit les spoilers à la façon d'un script.
Effectivement, on peut se poser la question et ça serait peut-être pas impossible d'ailleurs.
Ou tout simplement extrapoler toutes les rumeurs qui sont venues jusqu'à présent.
Mais je pense qu'ils savent vraiment où ils vont là maintenant. On commence à.
Oui.
À avoir de plus en plus de détails précis, et voilà. Donc, on commence en extérieur, c'est la nuit, ça se passe dans l'espace, puis ensuite, on passe dans la savane. Donc, un sabre laser traverse l'espace et tombe vers le sol. Extérieur, jour, dans la savane, c'est l'aube, une main étrange apparaît et prend peut-être le sabre. Ça n'a pas été confirmé. Nuit en extérieur, aux abords d'un village, BB-8 est troublé par quelque chose qui vient et se presse. Extérieur de nuit, BB-8 se dirige vers le presbytère. Intérieur nuit, scène de nuit, au presbytère, les mains sur le sabre laser, Poe est reconnaissant. BB-8 rentre à l'intérieur. Note, Poe vient de se faire remettre le sabre par le vicaire. Il paraît que le vicaire serait joué par Max von Sydow. Extérieur de nuit, au presbytère, Poe voit approcher les transports impériaux. Le vicaire... Donc, effectivement, ça serait une scène qui pourrait correspondre au dessin, au fameux dessin conceptuel où nous le voyons assis sur une sorte de trône, dit à Poe d'y aller. Toujours de nuit, Poe et BB-8 se précipitent à travers le village pendant que des villageois se préparent au combat. Toujours la nuit, mais à l'extérieur, aux abords du village, Poe rejoint son X-Wing avec BB-8 et se prépare à décoller. Poe envoie un message. Toujours de nuit, les troupes de Stormtroopers entrent dans le village contre l'accord des villageois. Intérieur, dans la nuit, toujours dans le village, le soldat impérial Finn et le reste des Stormtroopers quittent le transport impérial sous les feux. Toujours dans la nuit, habitant du village, un ami de Finn est blessé. Il touche le casque de Finn et il laisse 3 traces de sang. Toujours de nuit, alors que le X-Wing de Poe est prêt et qu'il finit d'envoyer son message, un Stormtrooper arrive vers lui. Au même moment, au village, une énorme navette impériale atterrit à côté du transport des Stormtroopers. Pendant ce temps-là, au presbytère, les soldats impériaux utilisent des lance-flammes. Finn épargne des villageois, c'est à ce moment-là que Kylo Ren arrive. Mais dans une autre source, c'est à ce moment-là que Kylo Ren ordonnerait l'arrestation de Finn parce qu'il a aidé des villageois à s'enfuir. Toujours pendant ce temps-là, depuis son X-Wing, Poe voit l'arrivée de Kylo Ren à distance. Au presbytère, Kylo Ren se confronte au vicaire. Puis ensuite, depuis son X-Wing, Poe regarde la confrontation alors que BB-8 veut intervenir. Au presbytère, Kylo Ren est à bout de patience et dit au revoir au vicaire. Depuis son X-Wing, Poe voit la fin soudaine du vicaire et cache le sabre laser dans BB-8. Leur route se sépare. Les Stormtroopers détruisent ensuite le X-Wing de Poe. Aux abords du désert et du village, BB-8 voit les Stormtroopers quitter le village alors qu'une énorme boule de feu apparaît. BB-8 regarde ensuite les Stormtroopers arrêter la course de Poe. Et toujours une scène en effet visuel, le transport de troupes et la navette impériale de Kylo Ren s'éloignent vers un Star Destroyer. Et donc évidemment ça vient se compléter à ce qu'on aurait pu savoir par la suite dans les scènes qui suivent, c'est que Finn se retrouverait dans une geôle du Star Destroyer, ça serait peut-être le fameux House of Mirrors, et donc il se retrouverait en compagnie de Poe. Et donc, comme on l'a déjà dit dans l'émission précédente, la spoiler 10, Finn et Poe finissent dans un cachot impérial après avoir été capturés. Leur relation est d'abord plutôt tendue au début de leur rencontre. Finn n'a jamais appris à voler, mais il sait comment s'enfuir de prison, et Poe est leur meilleure chance de s'échapper. Il fomente alors un plan pour voler un chasseur-ti et tente le tout pour le tout.
Et c'est là qu'il retourne sur la planète voilà. Qui s'écrase.
Exactement. Voilà.
Je trouve que c'est relativement précis comme description, parce que quand il dit, par exemple, il touche le casque de Finn et il laisse 3 traces de sang, c'est très précis, 3 oui. Traces de sang, c'est comme s'il y avait le script en tant que tel. Là,
je veux dire. Ah, si je me souviens bien, ça vient d'un dessin conceptuel qu'on a d'ailleurs décrit lors d'une précédente émission. On voyait deux Stormtroopers, dont l'un tenait l'autre dans ses bras, alors pendant qu'il y avait, je crois, pendant que tout le reste, tout le fond de l'image était rempli de flammes.
D'accord.
Bah, ça correspond pas mal aux descriptions qu'on a eues effectivement de concept art. Celui que tu as cité, enfin que tu viens de décrire à l'instant, mais aussi de d'autres, hein, de villages en flammes, de descentes, et même de ce qu'on a pu voir dans le teaser qui nous a été présenté.
Mm-hmm. Exactement.
La chose que je peux dire aussi, c'est que on rentre directement dans l'action. C'est un peu comme A New Hope. Les premières scènes, t'es dans l'action et t'as pas tout le contexte direct au début du film, directement au début, mais rapidement, tu sautes dans l'action et on va apprendre la situation au fur et à mesure. On tombe dedans, puis bon, qu'est-ce qui se passe? On va l'apprendre en le voyant, mais c'est très typique de Star Wars A New Hope. C'est exactement le même type de scénario, que tu tombes dans l'action sans savoir le contexte, à part le texte déroulant. Ça serait la seule idée de contexte qu'on pourrait se faire.
Oui, puis exactement. Il y a noté aussi que le sabre laser dans l'espace est toujours présent depuis, ouais, depuis des semaines et des semaines. On a toujours cette image-là. Là, ici, elle est décrite, mais sans la main. Souvent, on nous présentait le sabre avec la main accrochée. Bon, je pense que c'était un fantasme de fan suite à l'Empire contre-attaque. Mais on a toujours cette idée vraiment de sabre laser dans l'espace.
Mais ça fait comme très longtemps maintenant qu'on ne parle plus de cette fameuse main.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment un des premiers spoilers qu'on a eu, pratiquement, oui. La main dans l'espace. Mais là, il y a pas la main, mais il y a le sabre. Peut-être qu'ils l'ont éliminé à force de voir que les fans disaient que c'était impossible.
C'est possible. Ensuite, on a alors pas mal d'informations sur Luke Skywalker avec deux sources qui se contredisent un petit peu. Dany, je te laisse en parler.
Parfait. Oui, le grand maître Jedi, enfin... dans Legends, oui. mais à la fin du retour du Jedi, il était disons un Jedi accompli.
Oui, oui, oui.
Disons-le. Mais 30 ans plus tard, bon, le personnage préféré de tous, on a tous hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans. Et puis bon, qu'est-ce qu'on sait des sources jusqu'à présent? Bon, je vais y aller avec. Je vais parler de son état général et ensuite le rôle qu'il y a dans le film selon deux sources différentes. Donc, l'état général de Luke, bon, Luke est dans la clandestinité pendant la majorité du film de Force Awakens. Il s'est mis en exil et protège apparemment un ancien tombeau Sith. Luke subit des tortures mentales assez graves tout en protégeant ce tombeau-là. Les tortures lui sont infligées par des fantômes du passé, présent, futur. Donc, passé, c'est-tu Darth Bane, c'est-tu Exar Kun qui est dans Legend, etc. On le sait pas. Mm-hmm. Luke est donc dans un état très instable. Et puis, lorsqu'on le rencontre dans le film, en fait, il subit des effets néfastes de son exil et la proximité de la tombe. On parlait de ça dans un ancien Star Wars en direct spoiler, que l'effet négatif de protéger une tombe, puis que les sites ils s'imprégnaient de lui, puis ils essayaient de passer par lui pour essayer de sortir. Je sais pas si c'est ça le réveil de la force en tant que tel, on va sûrement le découvrir.
Ouais.
On mentionne aussi sa puissance est terrifiante à la fois sur lui-même et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la galaxie. Il y avait d'autres rumeurs dans le passé qui mentionnaient qu'il était ultra puissant, Luke, un peu à la The Force Unleashed, le jeu vidéo qui peut déplacer des montagnes pratiquement avec la force. Donc, j'ai hâte de voir à quel point ils vont avoir poussé la puissance, parce que si on regarde dans la prélogie, les Jedi sont relativement puissants, même les Jedi au Conseil Jedi, mais rien de pareil que prendre un Star Destroyer dans l'espace et de le faire écraser sur une planète, par exemple, dans l'exemple de The Force Unleashed, là. Donc, j'ai bien hâte de voir à quel point Luke est-il vraiment devenu le plus puissant Jedi connu. Par la suite, on a deux sources qui décrivent le rôle de Luke Skywalker dans The Force Awakens, mais c'est de façon complètement différente. Une source mentionne que Luke apparaît dans une seule scène du film à la fin, tandis que l'autre nous donne une introduction beaucoup plus majeure, emblématique de Luke Skywalker. Donc la première source mentionne que bon, vers la fin du film, on accompagne Rey, donc Daisy Ridley, tandis qu'elle dit au revoir aux gens importants du film, Léa, Poe, Dameron et les autres. Et pendant ce temps-là, il y a BB-8, R2-D2 et C-3PO qui sont en train de décrypter un code. Ray fait alors un arrêt à l'infirmerie pour dire au revoir à Finn qui s'y trouve. Donc, on peut imaginer qu'il est blessé à ce moment-là. Mm-hmm. Ray, Chewbacca et BB-8 ensuite montent dans le Faucon Millénaire et s'envolent. Ici, il y a un personnage manquant, clairement. On va en parler plus tard. Chewbacca s'amuse à ébouriffler les cheveux de Ray pour s'amuser. Le Wookiee, dans le fond, essaye à sa façon de signaler que tout va bien, puis que tout va bien aller. Le vaisseau part vers une nouvelle planète et atterrit. Ray s'approche alors d'un escalier de pierre et une silhouette s'y trouve en haut. Ray donne le sabre laser à cette personne et c'est Luke Skywalker. Et c'est, on ferme l'écran, c'est la fin du film. Donc, c'est une des versions...
très courte.
Très courte, que je pense peu de fans espèrent.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est que il s'agirait de l'unique séquence que Mark Hamill a tournée sur l'île de Skellig Michael. On en parlait de plein de rumeurs que lui et Daisy Ridley avaient été sur l'île puis qu'il y avait eu une scène de filmée seulement. Donc, ça serait cette scène-là. Il y a aussi le fait que l'acteur aurait été uniquement resté longtemps sur le plateau de tournage pour déjouer les fans et ceux qui essaient de justement spoiler tout et laisser penser que son rôle était plus important quand c'était vraiment le contraire. En tout cas, c'est ça que Luke ferait dans le long métrage. Il récupère son sabre, trouve une apprentie, point. Un peu limité, mais bon, ça confirme certaines rumeurs de son exil, du moins. On en parlait depuis très très longtemps qu'il était en exil, soit qu'il avait été capturé, ou soit que c'était lui qui s'était mis en exil. Là, ça confirme un peu plus que ce serait lui qui se soit mis en exil. Et puis, bon, il semble que le personnage serait conservé majoritairement pour l'épisode 8. Bon, on va parler un peu plus tard d'un autre personnage qui vont prendre beaucoup de place, contrairement à Luke, un autre personnage de la trilogie classique. Donc, ça pourrait justifier un peu de pousser Luke à l'épisode 8. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette première version, la première source?
Bah, elle est très courte. Si c'est effectivement cette scène-là qui apparaît dans le film, elle sera frustrante. Mais d'un autre côté... ça donnerait au film le terme qu'on dit au cinéma, ça donnerait un cliffhanger assez majeur pour ce film-là. Mm-hmm. Pourquoi pas?
Comme tu dis, pourquoi pas, mais j'avouerais que d'un autre côté, bon, ça serait pas mal, effectivement, mais ça serait un peu étonnant comme qu'ils aient fait venir l'acteur pour autant de temps quand même si c'était juste pour déjouer les fans. Je trouvais que ça un peu gros de cette façon-là quand même de le faire venir pour autant de temps quand même. Mais sinon, j'aime beaucoup hein, juste de le voir si peu. Je dis que ça, de toute façon, on savait bien que ça allait mettre l'accent sur les nouveaux personnages. Donc moi, je dis pourquoi pas. Mm-hmm. En tout cas, moi, ça me conviendrait en tout cas.
Comme tu dis, Hervé, c'est un cliffhanger très majeur. Je veux dire, il y a aucune série pratiquement qui a fait quelque chose d'aussi majeur. Parce que, écoute, on veut que l'on le veut ou non, c'est le personnage que je pense la plupart des fans veulent voir. C'est le personnage de la trilogie classique qui était le héros. Donc, de le voir seulement à la fin, je pense que ça va... Tu vas entendre dans les salles...
Oh!
<C'est sûr. rire> Carrément.
Ouais. Le même cri que Darth Vader à la fin de l'épisode 3. On va tous crier comme ça, quoi. Non!
Mais du moins, on n'a pas 3 ans à attendre.
Oui, c'est ça. C'est ça, surtout, ouais.
Donc, ce serait moins pire. Enfin, on va avoir Rogue One pour l'oublier un peu, ce cliffhanger-là, en fait.
Oui, on aura de quoi patienter, ça, c'est clair.
Donc, deuxième source sur le rôle de Luke qui est, selon moi, qui me satisferait beaucoup plus mon fan intérieur. Donc, en gros, la réintroduction de Luke Skywalker est plus emblématique. Donc, la source explique de cette façon. Luke est blotti contre un mur. Nous ne voyons pas son visage et son corps est caché par l'obscurité. Nous voyons différents éclairages sur son capuchon posé sur sa tête et la lumière ne montre que sa barbe grise. Quelqu'un dit « Luke ». Il est surpris et se recroqueville sur ses genoux. On nous montre sa main robotique sans gants, avec une marque de brûlure qui révèle les composantes robotiques. Un bras tend la main pour essayer de saisir son sabre qui est à quelques centimètres sur le sol. Luke se bat pour lui et nous entendons une voix désincarnée dire « Vous avez échoué, Skywalker. Vous l'avez ressenti. Votre lutte avec le côté obscur et la lumière. » Donc ici, on reconnaît clairement les paroles de la bande-annonce, qui est la bande-annonce teaser. Donc, on peut imaginer la même voix.
Oui, tout à fait, oui. Les dialogues me semblent identiques, hein, vraiment.
Mm-hmm. You felt it. Donc, tu vois, c'est un peu... l'avez-vous ressenti?
Mm-hmm.
You know, the dark and the light, l'autre partie. Il manque le mot « votre lutte » qui n'était pas dans la bande-annonce. Ensuite, bon, on entend les premières paroles décalées et bégayées de Luke. Il essaie de se lever, mais un ricanement lui fait se blottir à nouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose de diabolique là autour de lui. Il est en outre persécuté par cette voix avant qu'il entende une voix familière. Il se lève et pousse son capuchon vers l'arrière, un peu comme Obi-Wan Kenobi le fait dans A New Hope, quand Luke voit Obi-Wan pour la première fois. C'est notre premier regard sur Luke. Il est fatigué, souffrant et dans la folie. Ses yeux se contractent. Ils sont injectés de sang. Sa robe est en lambeaux, déchirée, et sa barbe est maigre et ses cheveux gris et longs. Luke descend quelques marches et quitte ses recherches sur le tombeau qu'il protège, dans le fond, qu'il garde. La voix désincarnée revient et dit « Vous avez échoué, Skywalker. » Luke tombe à genoux et hurle. Un tremblement détruit une partie d'un mur et la voix rit encore plus fort. Ils vont tous mourir. Je suis votre seul choix. Luke utilise une statue afin de se relever et supplie la voix de s'arrêter. Luke utilise la force pour saisir son arme et il l'allume. Cette fois, la lueur de son sabre vert nous montre un aperçu totalement classique de Luke. Nous entendons ensuite l'allumage d'un second sabre. Une lueur rouge apparaît dans un réservoir d'eau près de la tombe. Donc, voici la description de la seconde source qui est beaucoup plus épique, beaucoup plus diabolique, un peu de voir Luke qui est vraiment possédé pratiquement... par un esprit maléfique du côté obscur, puis il est juste imprégné de toute la négativité autour du tombeau, mais il doit rester là pour le protéger. Et puis on voit que la voix soit lui dit que il a échoué dans le sens que on a vu un certain résultat jusqu'à ce moment-là dans le film, et puis qu'il le dit à Luke, puis Luke est complètement désemparé d'apprendre cette nouvelle-là, puis il hurle. Et puis la deuxième, quand on parle de la lueur rouge qui apparaît, ben selon moi, c'est probablement Kylo Ren qui arrive, ou je sais pas trop. Mais c'est extrêmement différent de l'autre version. Donc, j'ai de la misère à voir laquelle des deux. C'est peut-être une ancienne version du script comparativement à une nouvelle version, ou vice-versa, j'ai aucune idée.
Moi, cette version-là, il est pas bien hein, déjà, Luc. Hein, que ça soit clair, qui est le pauvre, il a l'air de pas être bien du tout. En revanche, j'ai tout simplement l'impression que c'est une histoire qui a été brodée autour d'un concept art où on voyait Luc assis sur un trône, un fauteuil de pierre avec une lumière rouge derrière lui. On voyait, on suppose que c'était Rey qui arrivait par une porte devant.
Mm-hmm.
Donc il y avait cette scène-là et puis jumelée avec ce qu'on a pu entendre dans le teaser. Ça reste impressionnant comme scène si elle apparaît dans le film, mais en l'état actuel, ça me paraît plutôt sceptique. Qu'est-ce que t'en penses toi, Henri?
Ah, moi, je suis exactement pareil. Je trouve que c'est un peu énorme par rapport à ce qu'on savait jusqu'à présent. Je trouve que c'est un peu exagéré. Comme tu dis, on dirait que c'est plus un regroupement de plusieurs choses qu'on savait jusqu'à présent pour ensuite former un truc presque tiré d'une fanfic, j'ai l'impression. Parce que j'ai du mal que Luke soit aussi affecté quand même, alors que ça reste sûrement un très grand Jedi. Et 30 ans après, il a sûrement appris plus de choses. Et le voir bégayer, le voir tomber à genoux et hurler un peu comme ça, vraiment affecté, je trouve ça, j'imagine, j'ai du mal à vraiment imaginer ça comme quelque chose de réel. Moi, je trouve que la première version est peut-être plus sobre, mais plus, me semblait plus réel, me semblait plus ancré dans ce qu'on pourrait imaginer de voir à l'écran.
Mm-hmm. Ouais.
C'est difficile, en effet, ça a l'air trop gros, comme rumeur, comme vous dites, je veux dire, oui, c'est des choses que j'aimerais voir. Ça fait une belle fin de film, mais c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, c'est comme... Comment on pourrait dire? C'est un trip de fan.
c'est bien possible, ouais. Ouais, ouais.
En fait. Mais bon. Il faut trouver un juste milieu entre les deux rôles que je viens de décrire. Parce que la première, je trouve, c'est trop peu comparativement à celle-ci qui est beaucoup trop. Donc, trouver un juste milieu que oui, peut-être que Rey arrive puis elle lui donne le sabre, mais que quand Rey arrive face à Luke, il est tourmenté un peu à la façon qu'on le voit là, sans que ce soit majeur, là, mais que, oui, il protège une tombe, oui, il est traumatisé, oui, il y a des parties mécaniques, etc., etc. Trouver un juste milieu entre les deux, c'est ça que je trouve qui serait le mieux, vraiment, en fait.
Ouais, d'autres rumeurs sur lesquelles on a discuté dans les émissions précédentes, c'était qu'il était torturé comme ça en raison de sa présence proche avec la tombe Sith, mais c'était moins marqué que cette rumeur que tu viens de décrire. Ça me paraissait un peu plus plausible.
Et ouais, j'essaie de placer aussi le concept art qu'on voit. L'espèce de concept art qui fait un peu penser au fantôme de l'opéra, où est-ce qu'on voit à cette époque-là, on croyait que c'était un Luke qui était tombé du côté obscur ou quoi que ce soit, qui en prenait Rey, comme il la tenait comme par en arrière pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Où est-ce que ce concept-là entre dans l'idée dans une de ces deux proposition là, ça rentre nulle part personnellement.
Oui, ça rentre pas là, mais c'est vrai. Bon, on va le voir un peu plus tard, mais a priori, dans ce concept art, on n'aurait pas affaire à Luke, mais il y a quelqu'un d'autre.
Mm-hmm.
Si c'est bon pour vous, je vais continuer avec des détails supplémentaires qu'on a eu sur Léa, Rey et Poe. Je commence par Léa, donc dans The Force Awakens. Donc nous rencontrons d'abord Léa dans le repère de la rébellion, donc qui a été tournée à Grenham Common. Comme décrit dans la dernière émission, elle porte une tenue semblable à celle des troupes du Tantive 4. Alors Léa, c'est des choses qui ont été déjà dites dans la précédente émission, mais qui semblent se confirmer, comme quoi Léa n'est pas une politicienne, mais une martyre, alors là par contre ça en plus, hein, mais une martyre de la République dans la clandestinité. Suite à son bannissement par l'Empire naissant et sur l'insistance du Sénat. Léa et des membres de l'Alliance Rebelle se sont regroupés après avoir tenté d'arrêter la croissance du Nouvel Empire, sans y parvenir. Pour lutter contre l'Empire, Léa et l'Alliance Rebelle donc construiraient une super arme, on y reviendra un peu plus tard. Léa est particulièrement fière de cette arme-là. Nous l'apprenons lors d'une scène où Léa parlementerait avec le clan des Hutt, donc c'est une scène qui a été également décrite dans une émission précédente, pour le financement de cette arme. En échange, le Sénat fermerait les yeux sur les activités criminelles des Hutt, rebelles, Sénat et Hutt s'alliant donc pour lutter contre le nouvel empire. Donc la rébellion s'allierait également avec un groupe de chasseurs de primes par l'intermédiaire de Han Solo. Et pour finir, Léa chercherait à savoir ce que Finn peut révéler comme information sur l'Empire. Finn étant un ancien soldat impérial, il pourrait donc donner des renseignements capitaux pour la rébellion. Voilà, c'est un peu confus. On en a on a des informations qui sont redites par rapport à qui ont été révélées précédemment, où ça confirme, par exemple, la réunion des Hutt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Enfin, moi, c'est qu'est-ce que ça explique, selon moi, ici, c'est que après la chute de, entre guillemets, de la deuxième étoile de la mort, après Return of the Jedi, c'est clair que la rébellion est encore présente et que l'Empire a toujours le contrôle principal, selon moi, tellement que, comme c'est indiqué, Léa est un symbole plus qu'autre chose, et puis ils ont besoin d'argent tellement que il faut qu'ils aillent voir des criminels. Donc c'est pas si joyeux pour les rebelles même après 30 ans.
Oui. Oui.
Donc ça nous donne peut-être une petite idée un peu de la situation de la galaxie dans The Force Awakens qu'on n'avait pas vraiment encore. C'est clairement que oui, ils ont eu une énorme victoire à Return of the Jedi. L'Empereur et Darth Vader sont morts. Ils ont perdu une super arme, mais tout clairement, l'Empire a quand même, avec la grandeur de son armée et la quantité de planètes et de systèmes qu'ils contrôlent, ben probablement qu'ils ont réussi à se remettre sur pied facilement. On n'a pas les détails. Il y a 30 ans qui s'est quand même écoulé, puis on va espérer que la littérature, le canon va nous expliquer certaines de ces choses-là. Mais c'est une bonne idée jusqu'à présent qu'ils ont besoin d'argent pour construire une super arme ou même juste pour rester en vie financièrement et puis avoir des vaisseaux pour se défendre, etc.
C'est vrai que cet aspect-là de Leia serait vraiment intéressant. Ça donnerait un petit côté un peu sombre à l'histoire. Et après, c'est vrai que l'histoire de fait que les rebelles fassent une nouvelle super arme, ça m'a toujours un peu gêné, mais après, quand on y pense, ça ferait un bon sujet un peu philosophique, un peu comme déjà Lucas le faisait dans la trilogie originale par rapport justement aux héros aux mille visages. Mais là, on aurait vraiment quelque chose. En fait, la rébellion est obligée de combattre le mal, en gros, le mal par le mal, c'est-à-dire la rébellion serait presque obligée de devenir l'Empire, c'est-à-dire, comme disait Dani, faire des contrats avec des criminels, puis construire une super arme, qui serait en fait leur seul moyen pour combattre un mal encore plus grand.
Mm-hmm. C'est un revirement de situation, en fait.
Voilà.
Ouais. Donc, ils auraient, dans le retour du Jedi, ils auraient gagné qu'une bataille et pas la guerre, quoi. Ça continue. Ensuite, des informations sur Rey, donc des informations supplémentaires. Donc Rey, donc, n'est pas le vrai nom de la fille de Han Solo et Leia. Donc ça se confirme a priori. C'est lien de parenté. Celle-ci est révélée par Han Solo à la grande surprise de Finn et Poe dans une des scènes de The Force Awakens. Sur le caractère de Rey, donc elle semblerait être débrouillarde, drôle, mais a peur de faire partie d'une famille de la Force. Son oncle Luke a tenté de la former pour devenir un Jedi, mais elle a refusé. Dans une scène, Poe est surpris lorsque Rey utilise la Force pour déplacer quelque chose dans son atelier, mais ne le mentionne pas. Donc clairement, la Force est puissante dans la famille. Hein. On est encore dans cet esprit-là. Solo apparaît donc à la cantina qui semble se présenter comme le pub de Rose avec Chewbacca, et Rey exprime sa colère d'être sollicité pour protéger cette arme. Solo explique qu'il était nécessaire pour elle d'utiliser un pseudonyme et d'être sur la bordure extérieure pour éviter des liens avec son oncle, donc Luke Skywalker. Il dit être désolé de ne pas lui avoir dit l'importance de sa mission, mais elle est reconnaissante. Donc là, on parle effectivement de l'arme du sabre laser qu'elle est censée garder. Ça rentre un petit peu en opposition avec la description de l'introduction, mais d'un autre côté, ça peut être une scène qui se passe un peu plus tard dans le film. Qu'en pensez-vous? Pas grand-chose.
Ben,
c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, je trouve, sur celle-là.
Oui, c'est un peu...
Déjà qu'on se doutait que c'était la fille d'Angelo, oui. Et Léa, bon, ça a l'air de plus en plus confirmé. moi, ma raison pourquoi qu'elle veut pas être dans une famille qui a la force, il est arrivé quelque chose rapport à la force. Parce que oui, il y a 30 ans qui se sont écoulés. Pourquoi qu'elle veut pas?
C'est, ben oui.
C'est quelque chose. Est-ce que Luke a touché au côté obscur puis a fait quelque chose qu'elle, elle l'a pas aimé, puis elle dit non, moi je veux rien savoir de ça. Puis c'est une des raisons pourquoi que Luke est en exil. On parlait de sa super puissance à Luke, etc. Il a peut-être fait quelque chose de très très mal. Et puis elle a vu ça, elle a dit non, moi je veux rien savoir.
Oui, ou Luke l'a obligé à rester sur la bordure extérieure. Et puis elle en avait pas envie, et donc elle en a toujours voulu, par exemple, à son oncle. Et du coup, elle a contredit tout ce qu'il voulait lui donner, entre autres l'enseignement de la force.
Je trouve ça étrange qu'il mentionne on va aller la cacher sur la bordure extérieure, ouais. Pour éviter les liens avec son oncle, mais bon, ça serait techniquement sur Tatooine.
Ouais.
C'est pas, il y a un lien direct avec les Skywalker là.
Ouais.
Mais sinon, le fait qu'elle ait refusé de faire d'apprendre la force, peut-être que c'est juste uniquement par rapport à Luke, justement, que, comme tu disais, Dany, qui a failli tourner au côté obscur, mais moi, je penserais plus au fait qu'il a peut-être combattu, justement, il a failli tomber du côté obscur quand il a combattu Dark Vador et l'Empereur à la fin du Retour du Jedi. Peut-être qu'en apprenant ce fait-là, peut-être qu'elle avait peur qu'elle ne puisse peut-être pas résister, ou alors peut-être, justement, comme on n'en sait pas encore beaucoup de choses sur Leia, c'est peut-être Leia, justement, sa mère, qui est peut-être tombée, elle, du côté obscur à un moment.
Peut-être, mais
c'est possible.
On mentionne que
c'est vrai que le Leia en Jedi qui a pourtant les pouvoirs, on en parle. C'est vrai qu'on parle pas du côté Jedi de Leia. Hein. C'est quelque chose dont j'ai pas le souvenir qu'on ait entendu parler dans les rumeurs et les spoilers.
Non, en effet. Mais on mentionne que Rey est capable de déplacer des objets avec la Force. Donc, elle a eu une formation quelconque à un certain point. Si ça a l'air facile pour elle de déplacer des objets. Surtout dans son atelier, dans des utilisations de tous les jours, comme aller chercher un outil puis l'amener à sa main, ça a l'air relativement facile. Donc, elle a reçu un enseignement fort probablement de Luke, ou peut-être de sa mère, mais fort probablement de son oncle. Donc, c'est par la suite qu'elle a refusé après.
Pas forcément, parce que je me souviens qu'on a déjà vu des gens sensibles à la force qui finissent par y arriver par eux-mêmes.
Oui, mais enfin.
C'est sûr. Non, c'est ça.
Ça prend un certain temps. Là. Je veux dire, elle a dû être... Parce que surtout si Luke était là puis voulait lui montrer qu'elle l'a appris rapidement. Mais si c'est comme Luke, c'est pas facile à apprendre sans mentor, là. Sans maître. Regarde, dans la trilogie, il t'apprend pas à être un Jedi facilement, là.
Bah, a priori, c'est un petit peu le souci de The Force Awakens, c'est qu'apparemment tous les membres possédant la force, que ça soit du bon côté ou du mauvais, cherchent à avoir un posséderaient donc ce pouvoir de la force, mais ne seraient pas le contrôler, que ça soit du côté de Rey ou du côté de Kylo Ren. On va y revenir un peu plus tard. Je vais passer à Poe. Bon, quelques news pas énormes. Hein. Donc, on sait donc que Poe devrait faire partie du trio de personnages autour de Han Solo. Donc, on aurait en fait Poe Dameron, Finn, Rey et Han Solo. Ça sera à peu près ces cinq personnages, puisque Han Solo en général se déplace pas sans Chewbacca. Voilà. Poe, donc, lui est un pilote arrogant, stupide mais brillant. Rey et Poe tombent amoureux au grand désarroi de son père, Han Solo. Et néanmoins, Rey a le même caractère que son père, ça promet, et traite Finn un peu jaloux comme un enfant. Oui, Finn, donc, serait jaloux. Alors là, je sais pas pour vous, mais alors moi, quand j'ai lu cette rumeur, j'ai pensé au trio que nous avions avec Han Solo, Léa et Luke Skywalker sur les relations amoureuses entre trois. Là, on a Rey, Poe et Finn.
Au moins, il n'y a pas de lien de parenté.
on est vraiment...
Je sais pas si c'est dans cette rumeur-là ou une précédente. Bon, Han Solo, il est pas très, très ravi de cette relation parce qu'il se voit lui-même un peu dans Poe, comment qu'il était, oui. Exactement comme Poe dans le temps, puis il sait comment qu'il était comme vraiment pas méchant, mais il est
ouais.
égoïste et tout, là.
Ouais. Mais c'est vrai que plus les rumeurs avancent, elles sont révélées, on a un petit peu la description de ces trois personnages-là, comme Ray, Poe et Finn. On a à peu près les mêmes caractères de personnages que Léa, Luke Skywalker et Han Solo.
Mm-hmm.
Et je trouve que le rapprochement caractériel de ces trois personnages est très proche, voire trop proche. Mm-hmm. C'est surtout pour ça que j'en parle.
On verra comment que Finn va être développé.
Oui.
Parce que encore, c'est le trio principal, donc présentement, c'est un ancien. Ben, probablement à ce point-là du film, il a défecté dans la rébellion, mais j'ai hâte de voir vraiment. Star Wars Rebel n'a pas aidé, mais on voit encore les Stormtroopers comme des imbéciles.
oui, toujours, hein.
Même dans certaines rumeurs, on voit que Finn n'est pas capable de tirer de son blaster, etc. Donc, c'est un peu un Luke Skywalker sans expérience. C'est là que tu fais probablement aussi. Voir comment il va... est-ce qu'il est sensible à la force aussi. On n'arrête pas de parler que, bon, la force se réveille. Est-ce qu'elle se réveille dans tout le monde? Donc, certains... Oui. Ils sont capables facilement de l'utiliser et d'autres non, mais tout le monde l'a en eux à quelque part. Et je vois.
Ouais, à voir. T'en penses quoi, Henri?
Pour moi, de mon côté, j'ai toujours cru que les deux acteurs qui jouent Finn et Rey passaient tellement de temps ensemble que pour moi, pendant longtemps, j'ai cru que ça serait eux. Le fameux couple qui allait se former. Je trouvais que ça aurait été justement intéressant de voir un couple d'un côté rebelle et de l'autre côté empire. Mais bon, c'est vrai que ça, parce que je trouve aussi que Oscar Isaac, c'est un peu vieux pour Daisy Ridley.
Oui.
On l'a bien vu dans l'autre sens avec Padmé et Anakin, mais c'est sûr que Poe ne peut être que le troisième personnage, le troisième nouveau personnage principal. De toute façon, il n'était pas mis en avant dans le teaser pour rien, ça c'est sûr.
Mais il y a quand même une trilogie, hein, ça va peut-être changer.
Oui.
Que Finn va prendre le dessus, parce que si on regarde la trilogie classique, c'est Han Solo sur les deux hommes qui a remporté Léa. Tandis que là, ça pourrait être le contraire à long terme.
Ouais, mais... ensuite, nous avons alors pas mal d'informations sur Kylo Ren. Henri, je te laisse en parler. Donc.
Alors en effet, tout d'abord, comme on voyait dans la bande-annonce, au moment où il allume son sabre, la source d'origine de cette rumeur indiquerait qu'en fait que sa pose un peu maladroite serait que Kylo Ren serait blessé. Donc cette scène se déroulerait après la mort d'un personnage important, donc on en parlera un peu plus tard parce que c'est vraiment le spoiler des spoilers qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et donc Kylo Ren sera en train de continuer sa quête en poursuivant Rey, Luke et Finn dans la forêt qui sont en train de rejoindre Poe sur le Faucon Millennium. Alors à propos de Kylo Ren en lui-même, une source évoque la possibilité que Kylo Ren serait le fils de Han et Leia, et donc ainsi le frère de Rey. La source dit que Ren est obsédé par sa lignée depuis quelques années, fasciné par le côté obscur et les Sith. Il voudrait donc être aussi puissant que son grand-père Anakin et lui vouerait un véritable culte. Donc évidemment, ça correspondrait au dessin conceptuel qu'on a précédemment révélé qui présente un cyborg encapuchonné en train de tenir dans ses mains le casque brûlé et déformé de Dark Vador. Ce serait donc Kylo Ren à ce moment-là, même si à l'époque, les gens pensaient qu'il pouvait s'agir de Luke. Donc il posséderait également une chambre capitonnée sur un Star Destroyer dans laquelle il se parlerait à lui-même et tiendrait des conversations avec le casque de Vador, relique du passé. Néanmoins, Kylo Ren n'est pas le méchant principal du site du film. on ne sait pas d'ailleurs si c'est un site ou pas.
Oui, tout à fait.
La source évoque un certain Hubert, interprété par Andy Serkis, qui devrait apparaître peu de fois dans ce premier film. Sans blague, un peu comme Dark Sidious dans la prélogie. D'ailleurs, Uber serait plutôt, je pense, un nom de code, parce que si je me trompe pas en anglais, Uber, c'est vraiment le plus grand, le plus puissant, tout comme ça, si je me trompe
pas. C'est super extra, voilà. Gigantesque, gros.
Voilà.
Comme c'est.
D'accord.
Extra.
Et donc, Kylo Ren serait en quête du sabre laser en poursuivant ceux qui le posséderaient. Alors pourquoi Kylo Ren tient tant à ce sabre laser? Donc d'après la source, ce n'est pas le sabre en lui-même qui l'intéresse, mais le cristal qui le compose. En effet, il semblerait que ce cristal serait la clé du fameux tombeau Sith que Luke garde durant son exil. Kylo Ren pourrait ainsi réussir à offrir le tombeau afin d'obtenir une formation du côté obscur sans avoir le besoin d'avoir un maître. Le locataire Sith de cette fameuse tombe pourrait être le fameux Darth Plagueis qui a donc enseigné à Palpatine. Et donc, on reviendrait à cette fameuse scène de combat avec Kylo Ren. Plusieurs informations évoquent la rencontre entre Kylo et nos héros autour de Han Solo. Et donc, la source décrit cette scène dans son déroulement comme suit. Kylo Ren se bat contre Luke et reçoit plusieurs dommages. Han Solo demande à Luke d'épargner Kylo Ren. Finn et Rey s'allient pour se battre contre Kylo Ren après leur séparation de Luke. Luke semble être battu par Kylo Ren et ne peut plus aider Finn et Rey. Kylo Ren ne serait pas aussi puissant qu'on peut le penser et serait probablement à égalité en capacité avec Rey. Lorsque Kylo Ren et Han Solo se rencontrent, nous revenons sur Leia qui détecte une perturbation dans la Force.
Mm-hmm. Eh oui, ça en dit beaucoup quand même là.
Ouais. Si ça, et, donc, ça se... et même on voit enfin, effectivement, comme j'en parlais un peu plus tôt, une remarque par rapport à Leia et la Force.
Oui.
Mais ça, elle avait déjà senti quelque chose dans la Force quand Luke était suspendu en dessous de Cloud City. Donc, elle a senti déjà Luke dans la Force. Donc, c'est peut-être juste un niveau plus évolué de ses talents de Jedi qu'elle a. Mais moi, l'affaire qui m'a marqué, qu'on a mentionné, c'est que Kylo Ren serait le fils de Leia et Han Solo aussi, le frère de Rey. Parce que, tu sais, on parle que Legend a été mis de côté, puis ils ont pris des petits morceaux ici et là. Ça me fait tellement penser à la série de livres Legacy of the Force que Jason, justement, le fils de Leia et Han Solo, tombe du côté obscur. Donc, c'est vraiment pratiquement pigé de Legend comme idée, réintégré d'une autre façon dans l'histoire. Donc, je trouve que c'est un contexte intéressant. Ceux qui ont jamais lu les livres, ils vont trouver ça excellent. Faut se mettre dans l'idée des gens qui ont jamais lu les livres, là.
Mm-hmm. Ça serait tellement génial si tout d'un coup ils décidaient que le vrai nom de Rey était Jaina, quand même. Et puis qu'en fait, Kylo Ren, comme c'est quand même un nom et un prénom, ça serait bien que ça soit peut-être que ça serait Jason qui aurait décidé de changer de nom en devenant méchant. À l'instar de Darth Vader.
C'est possible.
S'il pouvait garder ces noms-là, ce serait, je trouve, un énorme clin d'œil à l'univers Legend. Et je pense que ça pourrait convenir à pas mal de fans, d'ailleurs.
Mm-hmm. Et ça dépend s'ils veulent se séparer de Legend. Parce que si tu prends les mêmes noms, ça fait un lien. Et puis, on le sait que surtout cette période-là dans Legend, elle va être vraiment bouleversée, complètement changée. Donc, je pense qu'ils garderont pas les mêmes noms. Juste pour faire un détachement avec Legend. Parce que sinon, il va avoir un lien et puis les gens vont peut-être être confus côté littérature.
Donc, oui, d'un côté, ça pourrait donner aussi un lien de familiarité. Donc les gens pourraient se dire, ah tiens, c'est peut-être c'est pas les personnages qu'on connaît, mais au moins ce sont les noms, donc on peut peut-être faire un lien avec ceux-là, alors que s'ils sont vraiment complètement inconnus, je pense qu'il y a des gens qui diront, ah oui, mais j'aurais préféré que ça soit Jaina, j'aurais préféré que ça soit Jason et tout ça, peut-être que ça risque de, justement, bon, c'est vrai que c'est une minorité, mais je pense qu'il y a peut-être des chances que certaines personnes aient, ça, ils essaient justement de trouver le lien et que ça les dérange que ça soit tellement différent.
Moi, je voudrais revenir sur une explication dans cette information. C'est le fait que Kylo Ren discuterait avec le casque de Darth Vader brûlé, déformé. Donc ça correspond au concept art qu'on a eu droit, où on voyait donc un personnage cyborg avec le casque à la main. Et donc là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il se peut que ce concept art corresponde à Kylo Ren. Et donc, du coup, aurait ce visage de cyborg.
Ben, ça serait une des versions, parce que oui, on a vu une autre image qui est comme vraiment un masque qui prend son visage au complet. C'est peut-être par-dessus l'image qu'on voit justement en concept art qui est moitié-moitié son visage qui est recouvert.
Ouais. Et on a donc le concept art que tu as cité, Danny, tout à l'heure. On a ce personnage-là qui tient Rey dans ses bras. Donc là, on aurait une scène avec le frère et la sœur.
C'est ça. Peut-être qu'il essaye justement de convaincre de la rejoindre à Darth Vader. Est-ce que vous pensez qu'on Vader ou Anakin dans la Force parle à son neveu ou c'est plutôt des hallucinations dans la tête de Kylo Ren.
Ben là, en fait, tu viens de me révéler une chose. C'est vrai que Anakin Skywalker apparaît à la fin du Retour du Jedi en fantôme de la Force. Donc, il pourrait tout à fait lui parler.
Mais pourquoi qu'il... Est-ce qu'il l'aiderait du côté obscur ou du côté clair? Peut-être essayer de le ramener hors du côté obscur.
ça devient compliqué. Hein.
Oui. Il y a des sources de partout. L'idée de Dark Plagueis. L'idée de Dark Plagueis, j'adorerais voir ce personnage-là, surtout qu'il a été mentionné dans Revenge of the Sith. Mm-hmm. Et même si dans le roman, techniquement, il est mort.
Mm-hmm.
Il n'y a rien d'impossible. Il peut être paru pour mort sans vraiment l'être. Et puis, de toute façon, les gens ont pas lu Dark Plagueis. Et puis, il est même pas canon.
Bon, ben alors, comme ça.
Legend. même si c'est un des meilleurs livres depuis longtemps, ils peuvent tout simplement changer le fait qu'au lieu d'être mort, il était supposé mort.
Mm-hmm. Et puis, donc, ça serait en fait Uber. Dark Plagueis pourrait être Uber en fait.
Mm-hmm.
Alors là on aurait un combat incroyable donc entre Darth Plagueis et puis Luke en fin d'épisode 9, ça pourrait faire quelque chose d'énorme.
Et n'empêche justement si Uber est joué par Andy Serkis, ça pourrait correspondre à ses rôles habituels qui sont dans les capteurs de mouvement. Parce que Darth Plagueis, il garde vraiment la race du Mewn comme ceux du clan bancaire et tout ça, donc ça pourrait correspondre à l'acteur.
Un humain peut pas vraiment être costumé comme ça, en effet.
Ouais. Avant de poursuivre, je vais vous demander de bien enregistrer là ce qu'on a en dernier, c'est que Léa qui détecte une perturbation de la Force. Je pense que c'est important pour la dernière news et le spoiler. Majeur. Ouais, majeur qu'on va avoir ensuite. Moi, je vais suivre donc avec les super armes et puis le plan de vol du Millennium Falcon. Alors, les super armes, donc a priori, et ça on avait déjà parlé, il y en a deux. Et il y en aura deux dans The Force Awakens. On a l'arme de l'Empire, donc qui n'est pas une planète, mais un super destroyer, le plus grand navire de la flotte impériale. Donc, la source indique que cette arme utiliserait des bombes sur le principe des charges sismiques qu'on a vu utilisé par Jango Fett dans l'attaque des clones, et donc permettrait de couper des planètes entières en deux. Ouf. Donc ça me paraît. Qu'en pensez-vous? Parce que moi, ça me paraît.
C'est un peu gros quand même.
C'est un peu gros.
Final, côté, je sais pas, ça peut être de l'antimatière ou peu importe là. Parce que je me souviens dans l'épisode 2, la bombe a fait vraiment comme une scission en deux parties, vraiment. Mm-hmm. Parce qu'un arc qui sort comme en deux dimensions au lieu d'être trois dimensions pratiquement, l'onde. Mm-hmm. Donc si elle est bien lancé, ça peut couper une planète, oui, mais il faut que ça soit énorme, là, la capacité pas électromagnétique, mais la gravitationnelle de cette bombe-là.
Ouais. Et je pense aussi que cette charge sismique a tellement eu un grand succès dans l'attaque des clones que c'est vrai qu'on est les fans voudraient peut-être la revenir cette arme.
Juste l'effet sonore de.
Ouais.
Oui.
C'est ça que le monde se souvienne. Aucune musique, juste le.
Ouais. C'était excellent. Je rajoutais juste pour l'arme de l'Empire, quand donc la super arme serait sabotée par le personnage joué par Gleeson et sera utilisée sur le monde natal Sith. Donc est-ce qu'on rentrerait un peu plus dans les antres du monde Sith et du monde de la Force? Il semblerait.
Mais là je me demande si est-ce que là le monde natal Sith, est-ce que c'est là que Luke protège la tombe, ou c'est tout simplement l'endroit où est-ce que Han Solo et Chewbacca s'infiltrent, on parlait de ça, puis il y avait des espèces de bestioles dans la forêt qui tuaient tout le monde.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est cette place-là? Parce qu'on parlait encore d'une arme qui était la planète au complet.
Oui.
Donc, ça a l'air d'avoir été mis de côté, cette idée-là.
A priori.
Pour l'instant. Ça serait pas la planète au complet, mais c'est autre chose qui est à la surface. Donc, je me demande.
Ouais, si on peut se demander.
Est-ce qu'elle est Michael ou non?
Ouais.
Ben, l'idée qui a été tournée, où est-ce que l'attaque avec les X-Wing au-dessus de l'eau et puis l'espèce d'île où est-ce que Luke serait situé?
Mmh.
Trop de super armes tue la super arme.
Ouais, c'est ça, oui. ensuite, on a l'arme des rebelles, donc qui aurait un nom maintenant, c'est le Sledgehammer, qui serait donc en construction et agirait comme un EMT, donc qui une fois activé est capable de paralyser tous les navires impériaux et de les bloquer efficacement. Alors donc des dessins conceptuels nous montraient le résultat de cette arme avec des destroyers écrasés sur des planètes. Je pense particulièrement à ce concept art où on voit ensuite des personnes tirer avec un animal tiré à X-Wing. Mm-hmm. Toutefois, donc, le dispositif qui contrôle cette arme est tombé dans les mauvaises mains et le récupérer impliquerait nos héros dans l'histoire. Voilà.
Bon, charge électromagnétique qui, vraiment, ouais. Qui, c'est un espèce de canon à ions, mais générique.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
Il rentre dans la vague de cette arme-là, faire toute son électronique, en fait. Donc,
c'est un peu aussi ce qu'on a dans Clone Wars. Je me souviens plus le nom de ce vaisseau. Vous savez, qui a un rond sur le côté.
Le Malevolence?
Le Malevolence, oui.
Ouais, je pensais à ça aussi.
Regarde l'arme rebelle, c'est relativement pacifique parce que tu désactives et donc détruire. Oui, ça peut faire écraser des Star Destroyers sur des planètes et tout, là, mais on parlait dans certaines rumeurs que Léa devait faire un choix, devait utiliser la super arme sur une planète, puis il fallait faire un choix entre battre l'Empire ou garder les gens en vie sur la planète. C'est un des deux. Donc c'était un dilemme épique dans le film. Mais là, cette arme-là, je ne vois pas comment qu'elle peut détruire une planète. Donc ça serait une autre arme. Pas l'arme majeure, peut-être, je sais pas.
À moins que effectivement, si on revient sur la rumeur de la planète arme de l'Empire, à ce moment-là, si toute la planète est l'arme, peut-être que ça peut jouer sur les champs magnétiques et détruire la planète. Bon, là, c'est la pure spéculation. Hein.
Oui, en effet. Ça enlèverait l'atmosphère, ou à moins que ce soit la planète qui dégage cette espèce de zone électromagnétique. Mm-hmm. Mais c'est tellement fort que tous ceux en surface, même tous les habitants, tout ce qui est vivant, c'est tellement fort comme charge électromagnétique que ça tue tout le monde sur la planète.
Ouais.
Une espèce de la planète dégage une sphère d'ondes, donc tout ce qui est à la surface qui est vivant automatiquement, c'est trop fort, il y a trop d'électricité ou quoi que ce soit, tout est anéanti, qu'est-ce qui est vivant sur la planète.
Ouais, tout le monde est électrocuté, en fait.
Ouais, du genre. C'est ce que l'arme planète, dans le fond, ça pourrait être dans le cœur de la planète, et il sert ou c'est quelque chose qui est implanté dans le cœur de la planète, et quand tu actives, ça dépose quelque chose dans le cœur de la planète, et ça bousille le champ électromagnétique qui crée une espèce de EMT,
ouais.
Là, une grosse bombe électromagnétique.
Ouais,
on sait plus, bien sûr.
ensuite, je vais poursuivre avec le voyage du Millennium Falcon. Donc, il semblerait que le Millennium Falcon est très présent dans The Force Awakens et nous permettrait de nous déplacer dans le récit de lieu en lieu, de planète en planète. Voici les lieux où il atterrira, ce qui nous donne une idée peut-être précise ou pas de la trame scénaristique de The Force Awakens. Donc, dans un premier temps, le Faucon arriverait sur la planète, une planète de sable, donc qui pourrait être Tatooine. Donc ça a été tourné à Abu Dhabi. Ensuite, selon les rumeurs, il serait absorbé et capturé par un vaisseau assez énorme, donc qui pourrait être le fameux House of Mirror, dont on parle souvent. Ensuite, il ferait escale au Rose's Pub, donc la cantina, enfin au pub de Rose, dont on a entendu parler également. Ensuite, nous avons une autre escale sur la base rebelle, donc qui serait tournée en extérieur à Greenham Common, ce qu'on a vu en image, hein, survoler il y a quelques semaines. Ensuite, on aurait une autre escale, donc ce qu'ils appellent The Evil Castle, donc qui serait une situation sur une planète où il y aurait de la neige. Peut-être la planète où on voit la scène avec Kylo Ren qui allume son sabre. Donc cette planète de forêt enneigée.
Fort probablement, oui.
Oui. Ensuite, on reviendrait sur la base rebelle à Greenham Common, et puis on finirait le Faucon Millennium finirait son périple dans le film à l'île de Skylar Michael. Voilà. Donc ça nous donne un petit peu le découpage du film, et ça confirme à peu près tout ce qu'on a pu avoir comme rumeur et spoiler. Néanmoins, ça me paraît trop net par rapport à effectivement tout ce qu'on a eu.
La fin indique clairement que on voit Luke seulement à la fin.
Oui, c'est ça.
Ça a dû être basé là-dessus un peu quand même. Il retourne à la base probablement après la mort du personnage que je parle par la suite. Mais Et puis ensuite, il quitte pour retrouver Luke. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant dans The Force Awakens que j'avais jamais vraiment réalisé? T'sais, on parle toujours que c'est les droïdes R2-D2 et C-3PO qui sont des personnages dans les 6 films. Mais dans la trilogie classique, et il semble dans The Force Awakens, le Faucon est un personnage en lui-même.
Oui, ben oui.
Il est toujours là, le Faucon, c'est comme la maison, c'est... il est dans tous les films de la trilogie classique. Il sera encore là comme vaisseau principal, dans le fond. Je trouve ça intéressant, cette idée-là, que c'est... Il faut absolument... C'est comme notre vieille bagnole, on peut pas s'en passer.
Dès qu'ils sont dans l'espace, c'est un peu la maison de tous nos personnages principaux, parce que c'est quasiment le seul vaisseau qu'ils empruntent dès qu'ils partent à l'aventure.
Mm-hmm. C'est ça. Il en a vécu des choses, le Faucon Millennium.
Oui.
Il en aurait des choses à raconter.
C'est ça. Bon, la planète de sable, oui, je suis clairement d'accord que c'est Tatooine. Le gros le transport gigantesque, ça c'est un peu... On a une scène, on n'en parle pas ici, mais il y a une scène qui parle qu'une bataille de blasters à bord de ce gros vaisseau-là avec des pirates, etc., et qu'ils vont récupérer du cargo. Il y a quelque chose en particulier, de la marchandise quelconque, c'est pas clair. Je pense pas qu'on en a parlé non plus dans une autre émission spoiler de cette chose-là en particulier, peut-être.
Je ne pense pas qu'on en a parlé.
Donc, il y a une scène à bord de ça avec Rey puis Finn. Donc, évidemment, si le Faucon se rend là, j'imagine que ce cargo-là est soit en orbite autour de Tatooine ou le premier saut d'hyperespace, c'est là qu'ils vont se rencontrer, en fait. Pour Rose's Pub, ça, c'est moins clair dans ma tête, tout ce qui se passe autour de ça. Ensuite, Rebel Base, Rose's Pub, il y avait pas des rumeurs que tu aurais le personnage de Lupita Nyong'o qui était une assistante de Léo, quelque chose qui allait pas chercher de l'information à cet endroit-là où j'essaie de me souvenir.
Oui, et puis il y avait aussi cette rumeur où en fait on avait un personnage extraterrestre qui aurait un cristal dans les mains et qui l'analyserait, et en fait je me demande si ça serait pas le cristal du sabre tant recherché.
Peut-être.
Et qui serait analysé à ce moment-là. Je pense qu'effectivement il y a pas mal de rumeurs qui sont en conjonction sur ce Rose's Pub. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer exactement? On ne sait pas trop, en fait.
Mais si
effectivement, je suis d'accord avec toi. Le personnage de Lupita était considéré comme une personne proche de Léa.
C'est ça. Et puis, s'ils sortent le cristal du sabre de, techniquement, de guillemets, Anakin Skywalker, si c'est vraiment le sabre que les rumeurs parlent que c'est le sabre d'Anakin qui a été transmis par Obi-Wan à Luke, que Luke l'a perdu sur Bespin, puis ça se retrouverait sur Tatooine à nouveau, tombé des cieux. Si c'est ce cristal-là, ça veut dire qu'il défond l'arme en tant que telle. Ça veut dire qu'il reconstruise l'arme. S'il arrive à Luke à la fin, il donne le sabre. T'sais, Luke pourrait voir « Ah, ma vieille arme » ou « L'arme père ». Ça veut dire qu'ils ont reconstruit l'arme, à moins qu'ils soient capables de scanner le cristal sans défaire le sabre laser.
Mm-hmm.
Enfin, ça reste à voir. Mais bon, j'ai bien hâte de faire un peu de sens dans les lieux, justement. Là. Le Evil Castle, je crois que c'est le concept art qu'on voyait le faucon sur une plateforme avec une longue passerelle qui allait vers le château.
Oui. Je pense que c'est ça aussi, oui.
On voit pas beaucoup de forêt dans cette image-là, mais bon. Au départ, je pensais que c'était une espèce de château à Skellig Michael dans ma tête, ça au départ.
Voilà, il y a beaucoup de rumeurs justement qui font régulièrement la séparation entre les deux. Apparemment, il est possible que entre The Evil Castle et ce qui se passe à Skellig Michael est souvent inversé. Comme tu le dis, il y a bien The Evil Castle avec le concept art que tu as décrit et Skellig Michael qui serait tout à fait autre chose.
Donc c'est ça que j'essaie de voir. Toutes les concept art qu'on voit, la majorité ont l'air d'être plus dans le Evil Castle et ça, ils portent le titre Evil Castle, donc le château diabolique. Donc, Skellig Michael, si Luke est pas là, si Luke, je veux dire, il est juste à la fin à Skellig Michael, qu'est-ce qu'il y a sur le Evil Castle? C'est une base de Kylo Ren? C'est-tu là qui est localisé comme quartier général? Est-ce que c'est là qui est vraiment la tombe et, ou encore Dark Plagueis Uber? Et puis, c'est pas du tout Skellig Michael, donc il y a une certaine scène à cet endroit-là où peut-être qu'ils vont récupérer le sabre, ils réussissent à le reprendre à ce moment-là, peut-être, je sais pas. Il tombe peut-être dans les mains de Kylo Ren à un certain moment donné, le sabre, et eux doivent le récupérer.
Donc, c'est possible. Qu'est-ce que t'en penses, Henri?
Bah, c'est vrai que c'est un peu tout ça, mais c'est sûr que depuis le début, on en ment, selon les rumeurs, la fameuse planète de forêt et de neige, c'est une seule planète. Mais c'est vrai que là, tout ce détail du trajet du Faucomillium, tu le trouvais un petit peu facile. Moi, je trouve que je pense qu'ils ont dû mettre vraiment que les grandes, évidemment, c'est que les grands passages du film importants. Je pense qu'après, il doit se passer des petites choses qu'ils n'ont pas à daigner assez intéressantes de noter. Mais on a quand même effectivement un bon détail du déroulement du film. Mais après, c'est sûr qu'il s'agit que du vaisseau. On ne sait pas. Peut-être qu'effectivement, même si le Faucomillium est présent une grande partie du film, rien ne dit évidemment, on verra. Normalement, on aura sûrement Po avec son X-Wing et tout ça, donc je pense qu'il doit y avoir sûrement d'autres scènes qui vont se mélanger à ça, mais c'est sûr que ça nous donne un bon déroulé du film. Après, comment ça va se caser tout ça, mais c'est sûr qu'apparemment, ça confirme bien, comme disait Danny, que l'une ne pourrait effectivement n'apparaître qu'à la toute fin avec les scènes de Skellig Michael.
Enfin, ouais. Je pense que les lieux qu'on voit ici, c'est les lieux où est-ce que notre trio est regroupé.
Aussi, oui.
Vraiment, parce que oui, il va y avoir des scènes séparées où est-ce que chacun de leur côté, là, qu'on va voir. Mais je pense que c'est vraiment, on parle justement que c'est le faucon. Donc, c'est du moment qu'ils sont ensemble et qu'ils se déplacent, c'est les scènes qu'on va voir. Parce que oui, il va y avoir des... Quand Poe et Finn vont être dans un Star Destroyer en prison, ben il y a pas... C'est un autre lieu de tournage, c'est un autre lieu du film. Rose's Pub... Dans ma tête, le faucon allait pas là du tout. C'était peut-être le personnage justement de Lupita Nyong'o qui allait là avec un autre vaisseau. Pourquoi que le faucon va là, on le sait pas encore. Cet endroit-là, je pensais pas qu'il allait avoir le faucon au Rose's Pub à ce moment-là. Ça reste à voir. Enfin.
Mais là, c'est sûr que toute la dernière partie, on a la base rebelle où ils vont tous se réunir avant de passer à l'attaque. Le château diabolique où ils vont affronter Kylo Ren et sûrement le tuer, parce qu'apparemment ça serait juste, je pense qu'il s'agirait juste d'un méchant un peu à la Dark Maul qu'on verrait juste dans le premier film. Ils repartent à la base rebelle pour fêter un peu tout ça, puis on terminerait la fameuse scène où justement Skellig Michael avec la fin avec Luke. Un peu pour terminer en demi-ton, on aurait la célébration, puis après une toute dernière partie qui annoncera quelque chose de diabolique pour la suite de la trilogie.
Moi, enfin, j'espère que Kylo Ren ne meurt pas, parce que si c'est vraiment le fils d'Han Solo, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'étirer. Que ce soit Luke qui détruit Kylo Ren ou que ce soit sa sœur qui le tue, ça pourrait être super intéressant comme idée, là. Donc, si c'est pas vraiment la fin de Kylo Ren dans ce film-là, que ça pourrait être dans le deuxième ou dans le troisième. Parce que oui, Luke, on suppose qu'il va se battre contre une entité Sith extrême. Donc ça peut être une bataille secondaire dans ce cas-ci. le frère et la sœur qui doivent se battre, c'est génial un peu, là.
Ouais, en plus, c'est vrai qu'on, en y repensant, c'est sûr qu'ils vont sûrement pas faire mourir plusieurs personnages dans le même film.
Parce que là,
surtout par rapport à ce qu'on va voir ensuite.
Parce que là, on regarde vraiment les bons et les méchants. Voilà. Sont de la même famille. On se suit vraiment. Tout le monde sont. C'est une grosse parenté, ce film-là. Là.
Eh ben, écoute, je vais te suivre. Je vais profiter de ton coup de coude, Henri, pour lancer Dali sur ce spoiler majeur dont on parle depuis le début de l'émission. Donc, la disparition d'un personnage important de la trilogie.
Oui, d'ailleurs, on va repréciser pour ceux qui nous écoutent que ça, c'est vraiment encore plus énorme que tout le reste. Donc, même si vous êtes spoiler, peut-être que vous voulez absolument pas savoir encore des trucs encore plus importants. Donc,
oui, parce que
on vous prévient une nouvelle fois quand même pour ceux qui nous écoutent en différé ou même ceux qui nous écoutent en direct qui sont là, même si on préfère vous prévenir encore plus.
Je vais même faire une alerte spoiler à l'instant. Donc,
très bien.
Vous n'aurez plus d'excuses.
Là, c'est majeur. Là, si vous voulez vraiment continuer, c'est à vos risques et périls. Voilà. Dali, je te laisse annoncer cette rumeur est incroyable.
Mm-hmm. Si c'est vrai, il va y avoir des larmes dans les salles de cinéma. Donc,
c'est clair.
La première grosse rumeur qu'on vous avait parlé auparavant, selon nous, à cette époque-là, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, c'était que Luke était tombé du côté obscur et que la surprise, c'était que lui était le méchant. Mm-hmm. Ça se révèle ne pas être vrai, mais on a appris autre chose qui est d'autant plus majeur et possiblement même encore pire, c'est que Han Solo va mourir dans The Force Awakens. Donc, il y a une grosse place dans le film, probablement pas pour rien, justement. Un rôle aussi important en présence que dans la trilogie originale. Son histoire est très liée au personnage de Rey, Finn et Poe Dameron. Donc, en fait, il va accompagner le nouveau trio, pendant la majorité du film. La découverte du lightsaber par le trio les amène vers Han Solo sans que nous ayons plus d'informations pour le moment. Han Solo est donc le père de Rey, comme on a mentionné préalablement. Et puis, évidemment, Han Solo ne souhaite pas que sa fille se lance à la suite de cette aventure-là. Donc, aller reporter le sabre à Luke, si c'est bien qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à présent. Néanmoins, par protection peut-être, Han Solo amène le trio à bord du Millennium Falcon vers la destination. Il dit « Non, non, je veux pas que vous y alliez, mais bon, ok, si vous y allez, je vais y aller avec vous autres. » Dans le fond, c'est un peu ça, l'idée. Là. Donc, il les amène avec lui parce qu'il veut protéger sa fille, en fait. Surtout si...
Ouais, c'est protecteur.
Ouais, c'est ça. Surtout s'il sait que son fils a tourné du côté obscur puis il est probablement impliqué là-dedans. Est-ce que sa sœur le sait, par exemple? Peut-être que sa sœur pense qu'il est mort, son frère. Ouais. Pense peut-être que son frère est mort, mais que son père le sait, lui. Peut-être.
Ouais.
Donc, il dit pas, mais il dit « Ok, je vais vous accompagner. » Ça serait un contexte intéressant. Bon, ouais. Qu'est-ce qui va suivre est tiré d'un script qui provient de scènes tournées dans les studios Pinewood à Londres. Donc, c'est la séquence un peu qui va décrire la mort de Han Solo. Ça se passe dans les remparts du fameux château maléfique dont on parlait préalablement. Donc Han Solo se cache. Il décide alors de se révéler à Kylo Ren. Finn, Rey et Chewbacca et BB-8 s'arrêtent en plein mouvement. Pour vous mettre du contexte, là, avant que je continue, prenez la scène de A New Hope quand Ben Kenobi se bat avec Darth Vader et que le groupe court vers le Faucon Millennium pour se sauver de l'étoile de la mort. Donc prenez cette idée-là et je reprends la description du film. Imaginez, faites juste changer les personnages. Donc la séquence se déroule sur les remparts du château maléfique. Han Solo est caché. Il décide alors de se révéler à Kylo Ren. Finn, Rey, Chewbacca et BB-8 s'arrêtent en plein mouvement. Il regarde tandis qu'Anne affronte Kylo. Kylo met fin à la conversation à tout jamais, donc boum, probablement sabre laser dans le corps, ou peut-être couper la tête, on sait pas. Ça serait horrible de couper la tête.
Ça serait extrême.
Après, Chewbacca lâche alors des grognements de colère et fait feu sans arrêter. Donc imaginez Luke quand Ben disparaît dans A New Hope. Luke, no! Puis là, il commence à tirer tous les Stormtroopers. Bah, c'est un peu la même chose. Sauf que là, c'est Chewbacca qui crie et qui tire sans arrêt. Kylo Ren s'enfuit par contre. Il s'en va pas vers nos héros comme Darth Vader le faisait. Kylo Ren lui s'enfuit. Plusieurs explosions surviennent. Des Stormtroopers arrivent forçant Finn et Rey à s'enfuir. Donc probablement qu'ils courent vers le Faucon. On voit la passerelle dans le concept art. Probablement que ça se passe sur la passerelle selon moi. Ils courent pour se sauver sur la passerelle vers le Faucon. Il y a d'autres explosions. BB-8 et Chewbacca s'enfuient vers le Faucon. Les explosions, je ne sais pas, mais j'ai une impression. Vous savez, les X-Wing qui survolent l'eau, là. J'ai l'impression qu'il y a une attaque sur le château en même temps.
Ah, ça serait pas mal.
Donc, c'est comme t'as la confrontation. Il y a quelqu'un qui a appelé les X-Wing où il y a une attaque imminente qui était prévue. Ils réussissent à récupérer. Han Solo, il sait tout ce qui se passe. Il n'a pas le choix. Puis là, peut-être qu'il confronte justement son fils. Puis il essaye de le convaincre, ou peu importe. Puis son fils, il est tourné du côté obscur beaucoup trop profondément. Et puis, il trucide son père. Ça va à l'encontre un peu des autres rumeurs qu'on a que Luke se bat contre Kylo Ren. Peut-être plus tard, c'est le cas.
Oui.
Mais à ce point-ci, c'est pas le cas. Donc, on voit un peu, vous pouvez un peu imaginer la scène qui serait tragique, vraiment. Contrairement à Legend, où est-ce que c'est Chewbacca qui meurt? et non, ben c'est Chewbacca maintenant qui survit, et c'est Han Solo, son compagnon, qui meurt et qui mettrait fin à sa dette de vie en fait à Chewbacca. Ben probablement qu'il transférerait à sa fille qui est Rey, donc il poursuivrait un peu parce qu'ils ont l'air de partir ensemble à la fin du film, n'est-ce pas?
Oui.
Donc ça serait un peu la poursuite de la dette de vie à Han Solo qui poursuivrait Harry. Donc, on continue. Il mentionne que Han Solo ne réapparaît pas après cette scène. Donc, clairement, il est mort. Il semblerait donc qu'Han fasse gagner du temps aux autres personnages et leur permette de s'enfuir, un peu comme Obi-Wan dans Un Nouvel Espoir, comme je mentionnais. Cette scène signifierait la mort de ce personnage très connu. On savait qu'Harrison Ford voulait mourir dans la trilogie originale. Dans l'Empire contre-attaque, George Lucas l'avait fait mettre en carbonite parce qu'il n'avait pas signé son contrat pour tourner dans Return of the Jedi. Mm-hmm. Et puis bon, il a signé, il est revenu. Mais là, Lucas voulait pas faire mourir de héros. Donc, je crois que dans les concepts original de Return of the Jedi, c'est Han Solo qui allait dans la Dead Star, et quand justement la scène que c'est Lando à la place qui sort dans les flammes, ben ça aurait été Han Solo, puis il aurait pas réussi à sortir. Donc d'accord. Il serait mort, il se serait sacrifié pour la cause, et je crois que c'est ça que Harrison Ford voulait. S'il acceptait de revenir, c'était une des conditions, que son personnage meure en se sacrifiant pour la cause, donc probablement que c'est ça qui va arriver. Une autre news mentionne que la mort d'Han Solo serait la mort la plus poignante et étonnante de la saga. Il semblerait qu'afin de protéger un être cher, probablement Rey, Han Solo demanderait à Luke Skywalker de le tuer. Ça, c'est une autre source.
Oui, oui, oui.
Donc, une fin différente, mais que Luke tue Han Solo pour protéger quelqu'un, protéger Rey ou même Kylo Ren, il dit protège mon fils ou pas, je sais pas comment.
C'est un peu particulier, hein. Déjà le fait d'annoncer la mort de Han Solo est quand même quelque chose de majeur dans le film. Le fait en plus que ce soit Luke Skywalker qui le tue, ça me paraît un peu improbable.
Pareil.
Maintenant que Kylo Ren, son fils, le tue, ça donnerait au personnage de Kylo Ren une aura de vrais sites de tueurs qui pourraient être...
ouais. Ça confirmerait un peu que son passage vraiment du côté de Uber.
Enfin, ouais.
C'est comme son épreuve.
Ouais, c'est ça.
C'est effectivement la version la plus logique. Et puis, comme tu disais, Dany, et comme on le savait tous, effectivement, ça serait qu'une suite logique que Harrison Ford ait enfin le droit à la mort de son personnage, et ça donnerait quelque chose d'absolument énorme. Mais ce qui est aussi étrange, c'est que d'un autre côté, est-ce que, comme les fans veulent, on a tellement entendu parler du fait que Harrison Ford voulait la mort de son personnage, est-ce que ça a pas été aussi un peu créé par les fans, mais c'est vrai que ça, c'est une rumeur qui traîne maintenant depuis tellement longtemps qu'on a plutôt envie d'y croire maintenant, désormais. Mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'effectivement, je ne sais pas comment le site Making Star Wars fait pour décider de mettre en ligne telle ou telle rumeur, parce que une telle rumeur, s'ils ont vraiment accès au script, pourquoi l'avoir attendu autant de temps pour la mettre, quelquefois on se demande vraiment pourquoi se décide-t-il à mettre une telle information à tel moment de l'année ou pas.
Mm-hmm. Oui.
Mm-hmm. Bon, après c'est les petits détails, mais est-ce qu'ils ont tout un, est-ce que c'est pas au fait finalement quelqu'un peut-être de Lucas, à moitié de Lucasfilm, enfin je sais pas, je connais pas du tout la personne, je crois que c'est James Ward
Jason Ward.
Ouais, voilà. Donc, je sais pas du tout s'il a vraiment des liens. Est-ce que c'est Lucasfilm qui lui donnerait des petites informations comme ça pour un peu attiser le fan, ou est-ce qu'il a vraiment de vrais espions? Mais à force, on se demande si quasiment tout Lucasfilm serait espionnerait pour lui presque.
toutes les informations qu'il reçoit soient très fausses, j'en doute. Tu sais que Lucasfilm envoie de la fausse information, puis que lui est convaincu que c'est vrai, et puis qu'on bâtit une idée du film, et quand le film sort, on est complètement frappé, parce que c'est absolument rien de ce qu'il y avait de spoiler. C'est possible. Sauf que pourquoi qu'il ferait ça? C'est de l'effort en maudit à faire, là.
À moins ça, c'est clair. C'est clair que c'est des efforts, mais s'ils arrivaient réellement à faire ça, ça serait quelque chose de sans précédent et quelque chose d'énorme.
Du cinéma.
Ah ouais.
Parce que c'est pas grand-chose. Tu payes un salaire, puis tu envoies de l'information.
Ça serait pas le story group, mais le spoiler group.
Ouais. Mais bon, JJ a mentionné que il y a beaucoup de spoilers qui sont vrais, puis beaucoup de spoilers qui sont
faux. Ouais.
Donc...
Évidemment, il y a plusieurs sites qui diffusent des spoilers. À moins peut-être que les faux spoilers viennent peut-être de l'autre site Star Wars 7 News, qui est un peu plus discutable d'ailleurs sur les informations.
Mm-hmm. Il a été fait pour contrecarrer certaines vraies rumeurs. Donc, pour mettre de la confusion dans tout, en fait.
Ouais, ou c'est des fans qui veulent absolument pas que les spoilers se traînent et qu'effectivement ils sont là pour en diffuser un maximum de fausses pour contrecarrer les vrais.
Mais je vois les réactions sur Internet par rapport à Jason Ward et puis MakingStarWars.net. Il reçoit des menaces de mort, de toutes sortes de choses. C'est horrible, là. Pauvre gars. Parce qu'il y a vraiment des fans là, qui a été banni du forum de Force.net à un certain point, des trucs du genre. C'est terrible, là. Oui, il a rendu une popularité probablement égale ou même supérieure à The Force.net, mais ils ont même un podcast, imaginez-vous. ce site-là, donc c'est hallucinant la popularité que ces informations-là qu'ils reçoivent, ou la connexion que cette personne-là a, qui a l'air assez haut placé quand même à toutes les choses qu'il reçoit. C'est pas juste un monteur, éditeur qui touche à quelques images, là. C'est quelqu'un qui a accès au script, quelqu'un qui a été là pendant les concepts, quelqu'un qui a été là, ou c'est une panoplie de personnes. Ouais, j'ai juste l'impression que c'est une personne bien placée qui fuit pour une raison inconnue, toutes ces choses-là. Peut-être pour donner un peu d'huile au feu du marketing que les fans font gratuitement. Tout ce qu'on fait, on le fait gratuitement, puis ça fait une machine promotionnelle incroyable pour Star Wars.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que de toute façon, je pense que tous les contrats doivent tous avoir une clause de non-révélation, je sais plus le terme, une clause de secret. qui doit être assez importante chez Lucasfilm. Mm-hmm. Donc, comment réussir à sortir des informations sans être démasqué, c'est aussi un souci.
Mais je me souviens quand cette news-là est sortie, c'est le monde était « wow ». C'était incroyable. Et puis, comme tu dis, Henri, il y a beaucoup de monde qui contestait, comment dire, la raison de sortir ce spoiler-là. Pourquoi sortir ce spoiler-là?
Et comme tu dis, si c'est vraiment quelqu'un haut placé chez Lucasfilm, c'est étonnant qu'il n'ait pas été découvert depuis tout ce temps. Donc, c'est un peu étonnant que ce soit... Je pense que c'est plutôt des gens... je pense qu'il y a plusieurs espions entre guillemets qui ont été là à différents moments du tournage, et puis peut-être qu'ils ont entendu parler de ce site-là et qu'ils voulaient peut-être avoir un petit peu de renommée, même s'ils n'étaient pas nommés personnellement. Mm-hmm.
Mais qu'est-ce que je trouve surprenant, c'est que c'est un nouveau site web, OK? Mm. Moi, être quelqu'un qui fuitait de l'information, travailler chez Lucasfilm, ma première réaction aurait été de Force.net, peut-être même des anciens sites comme Millennium Falcon qui étaient reconnus pour poster ce genre de choses-là. Puis là, tu irais donner ça à quelqu'un qui n'a pas de site web d'installer, il n'a rien fait. Puis là, il a quand même commencé en même temps que pratiquement le tournage, ce site-là, ou un petit peu avant. Donc, c'est la décision de choisir cette personne-là et de pratiquement... donner à un site inconnu toute cette visibilité-là, je trouve ça incroyable.
Donc, pense que d'un autre côté, je pense qu'ils ne pouvaient pas le donner à TheForce.net parce qu'ils ont tellement de liens par rapport à Lucasfilm, on sait bien avec... c'est plus le cas maintenant, mais il y avait comme TheForce Casque aussi qui invitait tellement de personnages de Lucasfilm que peut-être que même si c'est pas eux, peut-être qu'ils ont voulu donner justement s'éloigner un peu de ce fait-là et qu'ils avaient peur un peu de peut-être de s'attirer les foudres et qu'ils ont préféré faire que ça soit un site complètement à part. Ouais, et là, j'en train de regarder le site et leur première news date de juillet 2013.
Mm-hmm. TheForce.net se serait auto-censuré par rapport à ça. J'en suis convaincu, un peu comme tu dis. Ils sont rendus trop connus, ils ont trop de liens avec Lucasfilm, qui ne veulent pas se faire...
griller.
C'est ça, se faire griller, comme on dit.
Tu vas voir Making Star Wars recevoir des acteurs du film ou quoi que ce soit. Là. Ils vont être barrés. J'en suis convaincu.
C'est clair.
Parce que si ils ont reçu en invité des gens de Tops, les cartes Tops, puis peut-être des auteurs. Mais je pense que ça va s'arrêter là. Ils pourront pas aller du côté des films. Je ne crois pas. Pourquoi que Lucasfilm accepterait?
Ouais, c'est possible. Bien, écoutez, sur cette rumeur incroyable, on va s'arrêter là pour cette 11e émission. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver toutes nos émissions à l'adresse starwars.direct, dont les précédentes émissions spoiler, mais également Star Wars en direct, l'émission principale sur l'actualité générale de l'univers Star Wars, dont le dernier numéro, donc le 102. Hein. Ensuite, vous pourrez également écouter nos émissions Star Wars Rebelle, dédiées à la série d'animation, dont le numéro 3 sera d'ailleurs la prochaine émission à vous être proposée à l'écoute. Si vous ne voulez pas manquer une de nos émissions, vous avez la possibilité de vous abonner à notre compte iTunes ou à notre fil RSS pour les recevoir automatiquement. Pensez à voter aussi pour nos émissions afin de nous aider à être diffusés auprès du plus grand nombre. Pour finir, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions sur cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur studio@starwars.direct ou sur le compte Facebook et Twitter de Star Wars en direct. À propos des réseaux sociaux, Danny, où pouvons-nous te retrouver sur le web?
Personnellement, c'est sur Twitter, à l'usager Danny Pépin, en un seul mot, donc DANY PEPIN. C'est mon seul vraiment lieu que je pose des choses plus personnelles.
C'est là où tu es le plus actif.
Oui.
Aussi. Et toi, Henri?
Comme toujours, plusieurs moyens, ou bien Facebook à Henri Levental, sur Twitter à l'usager d'Alsk, ou bien sur le site de cinéma que j'ai co-créé, Breaking News.
Merci. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter, principalement, @HervéCoral, tout attaché. Voilà, je vais finir par une annonce. Star Wars en direct recherche des réalisateurs, des animateurs et des collaborateurs pour ses émissions au Québec et en France. Si vous êtes intéressé ou si vous désirez obtenir plus d'informations, je vous invite à vous rendre à l'adresse starwars.direct, rubrique recrutement, pour avoir toutes les informations. Voilà, merci.
Je dois mettre à jour la page encore.
D'accord, ok.
Il manque certaines informations.
D'accord. Merci Dany, merci Henri, merci à nos partenaires, metinbox.net, sitclan.net et starwars-holonet.com. Et un grand merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis, et on vous dit, à bientôt.